Bien, merci de vous être rendu ici. Et puis, on va commencer en vous demandant de nous donner votre nom et une brève description de votre travail dans le cadre du commerce des grains.
Mon nom, c'est Ronald Parent. Je suis du village de Saint-Joseph, 60 000 au sud de Winnipeg, considéré le district de la Rivière-Rouge. Oui. Alors, on est impliqué dans la culture de récolte, des récoltes céréales et des récoltes spéciales telles que les haricots secs. Et aussi, nous avons deux usines de nettoyage où on fait la mise en marché des produits, soit pour des canneries ou des ensacheurs de petits sachets, ou, et aussi pour des semences. Soit domestique ou à l'exportation. Alors, on transige dans 34 pays les différents produits agricoles qui passent à travers nos usines.
Impressionnant. Pourriez-vous nous donner une petite historique de votre entreprise dans le contexte du commerce des grains?
Mettons, on a commencé, tu parles des entreprises de nettoyage, là?
La vôtre, spécifiquement, et puis vous aviez parlé aussi des générations antérieures et comment ça s'est formé, votre entreprise, au cours des générations.
Bon, si on recule, mettons, à 1939, mon père, il avait été agriculteur, il faisait partie d'une ferme familiale.
Oui.
Puis, c'était une grosse famille, il avait 16 enfants, mais mon père était dans les plus jeunes, puis il a travaillé avec ma grand-mère, une fois que mon grand-père est décédé, à gérer la ferme familiale du temps. Puis ensuite, juste avant qu'il se marie, il a eu une opportunité d'aller suivre des cours, un cours d'agriculture qui était donné par les frères trappistes qui se trouvait à Saint-Norbert, au Manitoba. Alors, il y a plusieurs agriculteurs du sud du Manitoba, des francophones, qui ont été prendre ce cours-là. Puis là, on parlait, il y avait de l'enseignement pour comment dire, tenue des livres, mettons, la mécanisation, comment être des mécaniques avec la machinerie, la culture des récoltes, puis aussi... ça en anglais « animal husbandry », qui était
l'élevage des animaux.
L'élevage des animaux. Alors, ça lui a donné, mettons, une ouverture un peu plus grande aux possibilités qui sont possibles, mettons, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'extra sur la ferme, à part de qu'est-ce qu'il voyait dans le temps, parce qu'on travaillait avant dans des petites communautés, le monde ne voyageait pas. On avait, mettons, un aperçu peut-être un peu centralisé qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis des possibilités pour le futur. Alors, suite à ça, bien, on a y a des possibilités qui ont été offertes par le département d'agriculture, telles que la formation de ce qu'on appelait des parcelles de terrain pour faire la promotion de nouvelles variétés. On appelait ça des Crop Improvement Club, en autre mot, des clubs là, pour
l'amélioration
des semences. Ouais. Mm-hmm. Alors, il y a un tel club qui a été formé à Saint-Joseph. Alors ça a apporté les fermiers à voir les nouvelles variétés qui étaient disponibles, les comparer à les productions qu'ils faisaient, puis voir comment qu'il y a de ces variétés-là, ils étaient, mettons, supérieurs en résistance aux maladies, aux rouilles, mettons, la paille plus rigide, alors il y avait moins de pertes de ce bord-là. Alors, ça, c'était bon, ça a apporté une gang de possibilités. Là, on s'est aperçu qu'il y avait un programme aussi à l'Université du Manitoba pour... où on sortait, on produisait, mettons, des nouvelles variétés, puis qu'on pouvait, en travers d'une association de producteurs de grains de semences, avoir accès à ces variétés-là pour faire la multiplication de ces semences-là, ces nouvelles variétés-là comme semences pour faire une mise en marché, soit au plan local mettons, exportation, n'importe quoi. Alors, mon père, puis... une série de voisins ont commencer à faire de la production de grains de semences. Ce n'était pas les premiers au Manitoba, mais mettons, c'était les premiers pour notre région.
Oui.
Puis ça fait que là, c'était l'affaire de produire ces nouvelles variétés-là, puis faire la mise en marché, puis la promotion. Puis ça l'a apporté, mettons, la possibilité qu'on construise une usine pour le nettoyage des semences. Parce que vu qu'on faisait de la production des semences, il fallait aller les faire nettoyer à d'autres usines à distance, puis soit la vendre là à ces personnes-là qui faisaient le commerce, ou le rapporter chez nous pour faire la mise en marché, puis c'était pas bien profitable de faire ça. Alors on a construit une usine. Alors mon père et moi-même, en partenariat, en 1967, on a construit la première phase de l'usine pour faire le nettoyage. Ça a été très profitable au cours des années, puis ça nous a apporté à quoi qu'on est aujourd'hui.
Super. Je ne connaissais pas l'apport de l'université ou des trappistes, des pères trappistes au sens communautaire. C'est vraiment une belle contribution. Est-ce que votre entreprise a des liens avec Thunder Bay, avec le port de Thunder Bay?
Non, c'est pas pour nous, il n'y a aucun lien, parce qu'on fait la mise en marché, nous, directement à nos acheteurs, porte à porte. Alors, c'est fait beaucoup avec les camions qu'on appelle les piggybacks. Alors, on apporte les produits, on fait le chargement à nos usines, on transporte à Winnipeg ici, puis c'est chargé sur la rail pour envoyer aux différentes locations là, pour aux acheteurs finaux.
Mais ça part de Winnipeg, mais vous avez des destinations qui sont à l'extérieur de la province?
Oui, c'est oui. Ça. Oui.
OK. Ouais, et puis à l'extérieur du pays également?
À l'extérieur du pays, oui.
Mm-hmm. Merci. Comment décririez-vous une journée de travail type? Si vous arrivez effectivement d'avoir de telles journées, comme je pense aux personnes, aux organismes avec qui vous faites affaire ou le genre de travail effectué.
Tu parles au plan de quoi? Au plan de producteur de semences ou au plan de…
De vous, de votre rôle pendant votre… une journée type. Mais j'imagine que ça se fait en fonction des saisons aussi, hein, votre travail.
Oui. Bien, ça a varié beaucoup au cours des années avec l'évolution sur notre ferme. Alors, on parle-tu du passé ou si on parle du présent?
Oui. J'imagine qu'on pourrait parler du changement. On pourrait comparer les deux.
OK. Hein? Dans les premières années, quand on faisait juste débuter l'entreprise, la grosse affaire, c'était d'avoir… On misait beaucoup de temps sur la production. Mm-hmm. La partie de la ferme, ça prenait beaucoup de notre temps, plus que la moitié, mettons, d'une année. Puis le restant du temps, bien, c'était à l'usine pour faire le nettoyage et la mise en marché. Alors, dans les semences, production de semences, ça demande beaucoup de soins extra, beaucoup de nettoyage, préparation de machinerie pour empêcher la contamination là, des variétés puis des semences qu'on veut produire parce que…
Donc là, on parle de graines vagabondes ou errantes.
C'est ça. Mm-hmm. Puis des mélanges de variétés aussi. Une partie, mettons, de l'ouvrage d'un producteur de semences, c'est de faire certain que toute la machinerie est bien nettoyée pour empêcher des contaminations. Puis ensuite, au cours de la saison ou des saisons, bien, c'est encore toujours la même affaire. Dans les champs, une fois que le grain il est en épi, c'est de faire, on marche les champs pour arracher des plantes qui sont indésirables ou autres variétés. Ou, une fois que ça s'est fait ensuite, bien, on est rendu à moisson. Alors, c'est le nettoyage des silos, d'entreposage, le nettoyage de la machinerie, inclut les endaineuses et les combines, alors les moissonneuses. Alors, c'est beaucoup de soins et d'attention spéciale qu'il faut porter à préparer l'équipement, mettons, pour faciliter la production des semences enregistrées.
Donc, c'est un mythe qu'on ne travaille pas l'hiver. C'est plutôt une saison de débroffage et puis de perfectionnement professionnel et de voir à l'équipement.
Oui, c'est ça. Ouais, parce que les mois d'hiver, on avait l'opportunité, comme si je recule au début, je venais à l'université du Manitoba, il y avait une conférence pour les agronomistes, là, puis ça, bien, ça te mettait au courant des nouvelles variétés, des nouvelles procédures, les chimies, de tout un gamme d'informations. Alors, moi, je ne suis pas un agronomiste, mais j'avais eu le privilège, en travers d'un ami, de commencer à faire partie de ces congrès-là. Puis ça a été très bénéficiaire pour moi là, mm-hmm. dans les premières années. Fait que ça, c'est, tu sais, il y a beaucoup de préparation l'hiver. Il faut regarder ce qu'on va produire l'année qui s'en vient, faire l'achat des variétés, mettre les affaires en place, oui. Figurer la machinerie, réparation de machinerie. Il y a beaucoup de ça qui se fait en hiver, les mois d'hiver, parce qu'on n'a pas le temps pendant l'été.
Non.
Alors,
et j'imagine l'étude des marchés aussi, ça jouerait à l'hiver, j'imagine.
Oui, l'étude des marchés jusqu'à un certain point, c'était peut-être un peu moins demandant dans les premières années, peut-être plus maintenant. Okay. Il faut se tenir au courant de tous les marchés puis les différents marchés disponibles, mettons, puis ce qu'on peut faire là, pour ramasser plus de profits sur l'opération.
OK. Comment décririez-vous l'interdépendance entre votre entreprise et les autres composantes de l'industrie, comme on pense aux producteurs, on pense à la Commission canadienne des grains et du blé, les chercheurs, les transporteurs, les voies ferrées, les navires, la concurrence, les manutentionnaires. Quelle sorte d'interdépendance est-ce qu'il existe entre votre entreprise et ses intervenants?
Ouais, pour les chercheurs, c'est important parce que les chercheurs vont travailler surtout stationnés, mettons, aux universités ou aux centres de recherche, à sortir des nouvelles variétés qui vont être plus profitables, mettons, pour les fermiers, plus désirables, mettons, pour les marchés aussi, des traits spéciaux ou des traits demandés, mettons. Mm. Alors, c'est pour nous, comme agriculteurs, c'est important d'avoir ça, les meilleures variétés disponibles au cours des années. De travailler avec les fermiers, bien, il faut travailler avec les fermiers parce que pour nous, c'était notre clientèle, les fermiers. En étant producteurs de semences, nos acheteurs principaux, c'était le fermier. Alors, c'était de les tenir au courant autant que possible des nouvelles variétés qui venaient sur le marché, puis les avantages. Dans les premières années, on n'avait pas toutes ces réunions-là qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on a des réunions régionales, mettons, qui parlent de toutes ces nouvelles variétés-là. On a ce qu'on appelle comme à Saint-Jean-Baptiste, au début de janvier, il y a ce qu'on appelle les Farm Days. Alors, on a des spécialistes dans tous les secteurs de la production agricole qui viennent puis qui mettent les fermiers au courant. Alors, ça, c'est une grosse aide, ça, pour les fermiers, mais aujourd'hui, bien, ça n'existait pas dans les premières années. Alors,
donc, un meilleur système de réseau, un meilleur réseautage, et puis c'est j'imagine un plus grand marché également.
Ça l'ouvre le marché, oui.
Oui.
Ouais, définitivement. Et comme tu as demandé la question avec la commission des grains, bien, pour nous, avec les semences puis l'exportation, il y avait toujours le besoin de produire des certificats phytosanitaires à l'exportation, puis des certificats de garantie de produits. Ils rencontraient des normes d'exportation, des normes des acheteurs.
Mm-hmm.
Alors, puis aussi le secteur, le côté semences, là, c'est encore toutes les demandes qu'il y avait pour qu'on ait la certification de ces semences-là, pour rencontrer une gamme de critères. Alors, ça prenait une inspection, un échantillonnage des lots qui étaient nettoyés pour garantir puis avoir la disponibilité aussi de la certification. Alors, quand on vend quelque chose de certifié, ça garantit qu'il y a toute une série de normes là, qui sont rencontrées puis que le producteur qui est acheteur a un produit de qualité garanti.
Et cette certification, ça se fait sur une période de quoi? De combien d'années ou de mois ou Comment est-ce que...
Bien, la certification, c'est annuel. Alors, une fois que la récolte est récoltée, puis qu'on fait le nettoyage, soit qu'il est mis en sac ou qu'il est en vrac,
oui.
On appelle les inspecteurs à venir échantillonner des lots, puis garantir la certification, mettons. Ça a changé, ça, au cours des années, parce qu'avant, c'était obligatoire de faire ça. Maintenant, c'est rendu, à cause des coûts impliqués pour ça, c'est rendu la responsabilité des usines de nettoyage de qualifier pour être agent de certification. On est sujet à se faire vérifier à un moment donné, mais là, notre commerce, on a une personne là, dans le contrôle de qualité qui est qualifié pour faire la certification des lots de semences. Alors, ça va faire en grosse partie pour la rationalisation des coûts à cause de les inspecteurs. Il faudrait qu'ils viennent de Winnipeg.
Oui.
C'est le trajet, les repas, tous les coûts associés à ça. C'est rendu une assez grosse facture de faire venir les inspecteurs pour faire certifier toutes ces lots de semences-là, parce que ça ne vient pas tout en même temps. À mesure qu'on nettoie, il y a toujours de quoi à certifier. Alors, là, ça a rationalisé ce côté-là. Puis, ça a donné plus de responsabilité aux usines, puis ça l'a apporté aussi, ça a ouvert la porte à se perfectionner sur le côté de contrôle de qualité.
Donc, si on parlerait des principaux changements que vous avez vus au cours des années dans l'industrie, on parle soit de... Vous avez parlé tantôt de pois chiches, les marchés, les produits, la concurrence, les façons de faire affaire. On avait parlé de la technologie et les points de service. Si vous pourriez nous dire, pour vous, quels ont été les principaux changements que vous avez vus au cours des années?
Ouais, le gros changement, c'était la gamme de nouveaux produits qui était possible de faire de la production sur la ferme.
Okay.
Alors, on regarde les oléagineuses, c'est un exemple. Quand j'ai commencé dans les 60, ça n'existait pas. Puis un petit peu plus tard, à la fin des 60, là, il y avait des nouvelles variétés, des variétés qui ont sorti, là, qu'on pouvait faire de la production. Il y avait comme les pois jaunes, ils s'en faisaient, mais pas beaucoup. Alors, ils ont sorti des nouvelles variétés de pois jaunes là, qui étaient vraiment désirables à produire. Alors que ça a apporté une récolte qui a vu un plus grand ancrage au cours des années, pour un certain nombre d'années. Il y a les lentilles qui ont été introduites aussi au Manitoba puis en Saskatchewan. C'est une nouvelle récolte qui a été très profitable pour les producteurs pour un certain nombre d'années. Ça l'apportait un autre type de récolte avec quoi on pouvait faire la rotation avec les céréales. Il y a aussi comme le soya. Il y avait très, très peu de soya de produits. C'était surtout en Ontario où on produit aussi des maïs. Les maïs ont commencé à prendre beaucoup plus d'ancrage ici avec les nouvelles variétés, avec saison plus courte, maturité. Alors, puis les soya, c'est la même chose. Il y a des variétés qui étaient adaptables à nos saisons. Alors, ça a fait des changements désirables pour les fermiers. Alors,
Est-ce que pour eux aussi, ça leur permet de joindre un plus grand marché, comme pour vous?
Bien, mettons, ça lui donne de la flexibilité, mettons, à ce qu'ils peuvent produire, parce que si on regarde au cours des années, mettons comme on prend les prix du blé, par exemple, le blé se vendait très bien certaines années, puis d'autres années, il n'y avait presque pas de marché, on marchait sur un système de quotas, il y avait très peu de quotas, les prix étaient en dépression. Alors, si on dépendait seulement du blé puis de l'orge pour survivre sa ferme, c'était très, très onéreux. Avec toute cette gamme de nouvelles variétés-là, au cours des années, ça a donné de la flexibilité à produire des récoltes où on pouvait voir un profit, parce qu'il y avait, mettons, une demande qui se faisait sentir dans les oléagineuses, mettons, ou les lentilles. Il y avait des manques de récolte dans certains pays à l'exportation. Alors, on voyait la possibilité de meilleurs prix. Comme cette année, les haricots secs. Il y a beaucoup moins d'ancrage. C'était apparent qu'on était pour voir des meilleurs prix. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ont pris avantage de ça, mais ceux qui l'ont pris, le prix a presque redoublé, puis ça a été une bonne récolte. Alors, le revenu était extrêmement profitable pour ceux qui ont voulu oser faire l'ancrage de cette récolte-là, parce que les prix étaient à dépression depuis une couple d'années. Puis tu comparais, mettons, ton coût de production puis ton revenu à comparer au maïs ou au soya ou les autres récoltes que tu peux mettre en compétition, mettons, avec les haricots secs, mais le prix qui était possible avant les semences, c'était pas apparent que c'était facile de faire un choix, mais il faut toujours regarder un peu plus loin que ce qu'on voit sur le plateau aujourd'hui, parce que c'était évident qu'on n'était pas pour avoir le même ancrage, puis définitivement, l'ancrage a tombé drastiquement, puis ça, ça a apporté immédiatement des meilleurs prix, mais ça, c'est la suite aux semences. Alors, il était trop tard pour les gars de s'adapter, mettons.
Donc, est-ce que ça fait partie de votre rôle dans votre entreprise de donner des conseils aux agriculteurs pour ce que vous croiriez serait plus rentable pour eux dans une saison donnée?
Oui, définitivement. En 1995, on a embauché un agronome qui fait partie de notre équipe pour travailler avec les fermiers, pour ces raisons-là, pour les mettre un peu au courant des marchés, les prix, le potentiel des marchés à l'exportation qui définissent nos prix vraiment, parce que les haricots secs, c'est un produit à l'exportation. La consommation domestique est très, très basse. C'est aider aussi le fermier à faire des choix sur la machinerie, les herbicides. La personne, l'agronome, va aller visiter les fermiers dans le champ, puis faire une évaluation des récoltes, quoi servir en frais d'herbicides, aider à déterminer le temps propice de faire de couper la récolte, puis les changements qui devraient être faits aux moissonneuses afin de minimiser le dommage à la récolte, parce que comme les haricots secs, c'est une récolte très délicate. Puis si on tombe dans une saison sec, c'est encore pire. Alors, il y a certaines adaptations qu'il faut qu'il se fasse. Alors, c'est important pour notre commerce d'avoir un agronome qui pouvait aller assister les fermiers à faire des choix ou des recommandations.
J'imagine que votre grand-père serait surpris de voir qu'il y a tellement de ressources aux dispositions des agriculteurs de nos jours.
Oui, peut-être que ça lui ferait peur. Hein?
C'est ça. J'imagine que l'agronome, il faut que ce serait une personne, j'imagine, avec beaucoup de tact.
C'est ça.
Il rencontre différents besoins.
Oui, puis quand on regarde son recul, on parlait d'un agronome, mais c'était une personne qui est totalement diplômée, puis il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il était dispersé. Alors, on était loin de penser un jour qu'on aurait embauché un agronome à notre commerce privé.
De gros changements.
Des changements, hein. C'est l'évolution, puis ça devient des nécessités pour faire avancer le... commerce.
C'est ça. D'après vous, quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise a dû s'affronter au fil des années?
Le plus gros défi, c'était d'établir les marchés pour les produits. Alors, c'est pas une affaire qui s'accomplit du jour au lendemain. Surtout quand on va à l'exportation, parce qu'un des gros défis à l'exportation, c'est que c'est pas comme quand on va à nos voisins, puis qu'on peut aller y parler pour au cas qu'on ne se fait pas payer quand on est supposé d'être payé. Puis si par cas qu'il y a des disputes aussi sur soit la qualité du produit, que ce soit une dispute qui est équitable ou que ce soit de quoi qui est perçu, parce que dans certains pays, tu vas faire une vente, puis si les marchés sont à la hausse, on a tendance de trouver des excuses pour avoir des escomptes sur la facture. Puis quand les prix sont à la baisse, mais là, c'est le contraire, c'est trop facile. Hein? Mais c'est un défi qu'on a dans un certain nombre de pays, mais on continue à faire affaire parce que ça fait partie de notre plateau d'offrir des produits, mettons, parce que différents pays ont une demande pour différents produits, différentes récoltes, différents grains.
Mm-hmm. Alors, voilà. Les événements marquants, on parlait de ça. À part les changements et les défis mentionnés, que vous venez de mentionner, quels ont été les événements les plus marquants de l'industrie du grain qui ont eu lieu au cours de votre carrière?
Je crois que quand il y avait beaucoup de production de betteraves à sucre au Manitoba, puis, on avait, mettons, approximativement, ça variait d'une année à l'autre, à peu près de 24 000 à 25 000 producteurs qui étaient impliqués dans la culture de cette récolte-là. Mm-hmm. Ça a été un gros désastre, on pourrait dire, pour plusieurs entreprises familiales de fermes, parce que les betteraves à sucre avaient tout le temps été une récolte qui avait apporté un revenu continu.
On voyait les camions à chaque automne, hein, avec les betteraves à sucre.
Parce que les années que, mettons, les céréales, les prix étaient à baisse ou qu'il n'y avait pas de mouvement à cause des quotas, il n'y avait pas de marché, on pouvait toujours compter sur le chèque revenu là, des betteraves à sucre. Parce qu'on faisait la récolte des betteraves à sucre tard à l'automne, après les céréales. Puis normalement, dans les premiers jours de novembre, il y avait le premier paiement sur la récolte délivrée de betteraves à sucre. Puis ça, c'était le gros pourcentage de la récolte. Puis ensuite, on avait des paiements intérims qui rentraient au cours de l'année. Mm-hmm. Mais le paiement au mois de novembre, ça l'a aidé aux fermiers au cours des années à payer des factures mm-hmm. qu'autrement, il aurait été presque impossible à payer. Puis ça les a mis peut-être un peu plus indépendants à grossir puis à faire progresser les fermes parce que financièrement, ils étaient en meilleure position. Mm. De l'autre côté, ça demandait beaucoup d'ouvrages extra. C'était une récolte assez demandante, mettons, en frais de temps et d'énergie. Mm-hmm. Mais on était assuré qu'à l'autre bout, il y avait un revenu qui aidait à faire survivre la ferme quand le restant est en trouble, mettons.
Uh-huh. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que le fait que la récolte des betteraves à sucre, que la demande n'est plus là, est-ce que son absence a contribué aux fermes super grandes?
Je pense pas, parce qu'aux États-Unis, où ils ont encore ils ont eu la protection, eux autres, mm-hmm. Le gouvernement avait établi des tarifs sur le surplus, là, dumping qu'on appelle, des surplus. Alors, il y a beaucoup de grosses fermes aux États-Unis qui font encore de la culture de betterave à sucre, mais définitivement en plus gros ancrage. Mm. Ici au Manitoba, quand on regardait l'ancrage traditionnel ou moyenne, là, on pouvait regarder 200, 300, 350 orques. Il y en avait des plus grosses, mais la moyenne là, était autour de 200 orques. Mm. Ça, c'était souvent des fermes familiales, père-fils. Mais maintenant, aux États-Unis, on voit des gros ancrages. Les arracheuses, mettons, pour arracher la récolte, là, mm-hmm. on a commencé avec un rang, puis il y a eu 3 rangs, 4 rangs, 6 rangs. Puis au lieu d'aller, mettons, on allait à peu près 1,5 mille à l'heure avec les 1 rang. Puis maintenant, tu te promènes à 6 à 8 000 à l'heure avec une machine à 6 rangs.
Quelle différence.
Alors, tu peux t'imaginer la productivité. Alors, tu peux faire beaucoup d'ancrage à comparer à ce que tu faisais. Alors, ça l'a permis, mettons, aux fermes d'avoir un plus gros ancrage. Alors, aux États-Unis, c'est des gros ancrages en partie. Mm-hmm.
Donc, ce n'est pas que le marché des betteraves à sucre a changé tellement, c'est plutôt les tarifs qui ont été imposés ou pas imposés qui a fait le changement
Ouais, les
de nos
tarifs
récoltes ici au
n'ont
Manitoba.
pas été imposés à l'importation. Alors, ça l'a mis, mettons, la production des betteraves à sucre un peu moins profitable pour les compagnies. Alors ici, comme au Manitoba, à Fort Garry, où il était à l'usine, c'était appartenu par Rogers Sugar de Vancouver. On s'appelait ça Manitoba Sugar ici, mais quand c'est Manitoba Sugar qui a fait la décision de fermer l'usine ici. Quand l'usine a fermé en 1996, ça a fini d'être là, on va dire qu'il n'y avait pas de revenez-y. Hein. Il y a encore une usine de transformation qui existe, puis c'était à Taber, en Alberta. Parce que originalement, il y avait une industrie de betterave à sucre au Québec. Il y en avait une en Ontario, puis il y en avait une au Manitoba, puis ça a tout disparu. Alors, ça donne une idée comment les affaires changent au cours des années. Mais ça a été difficile pour les fermiers parce qu'il fallait qu'on s'adapte à d'autres récoltes.
Exactement.
Puis c'est là que ça a apporté la culture des haricots secs comme un alternatif intéressant. Puis ça l'a été au Québec, ça l'a été en Ontario, puis ça l'est au Manitoba. Parce qu'on peut se servir des mêmes tracteurs, on peut se servir des mêmes semeuses, des machines pour arroser des herbicides, puis pour les cultivateurs. Parce que c'est une récolte en rang. Alors on peut adapter tout cet équipement-là à l'autre culture.
Mais
Alors
ça,
quand
c'est
ça
un
a fermé,
avantage.
nous, notre compagnie, on avait prévu la démise de cette industrie-là. Alors 2 ans avant que les fermes, on avait débuté la construction d'une usine pour faire le nettoyage et la mise en marché des haricots secs. Notre usine est venue en production à l'automne de 1995, puis en 1996, il n'y avait pas de contrat de betterave à sucre. Alors, on était là juste à temps. On a ramassé un paquet de producteurs. On avait notre agronome qui a fait la promotion, puis on a aidé les producteurs à s'adapter à la nouvelle culture. Alors, ça a été très bénéficiaire pour notre
Des
compagnie
bons conseils que vous avez donnés, oui. Sur le plan personnel, quels sont les souvenirs les plus saillants du commerce des grains que vous avez, les souvenirs visuels, les sons, les personnes, les expériences, les histoires? Vous en avez quelques-unes, j'imagine.
Ouais, c'était de travailler avec les cultivateurs qui étaient acheteurs de nos semences. Là, c'était vraiment intéressant. Toute une gamme de différentes personnes, toutes sortes d'âges. On a travaillé beaucoup avec des personnes plus âgées, mettons, que il n'y avait pas de succession dans les fermes qui ont travaillé jusqu'à 75, 80, 80 quelques années. Puis c'était tout le temps un peu un privilège de transiger avec ces personnes plus âgées que ça. Parce que eux, ils arrivaient à ton commerce, puis comme là, pendant la journée, tu es au bureau, puis tu reçois cette clientèle-là. Ils viennent s'asseoir dans ton bureau, puis on parle un peu d'affaires, puis on parle un peu de d'autres affaires. Puis moi, j'avais un dicton, puis je disais ça à Lorraine, bien, j'ai dit, aujourd'hui, là, j'ai passé à peu près 10% de mon temps au confessionnal. Parce que les personnes nous contaient des affaires, puis des affaires familiales ou toutes sortes d'affaires, puis après ça, bon, on parlait de business après ça.
Oui, oui.
Mais ça, je trouvais ça intéressant. On n'a plus ça aujourd'hui.
Non.
C'est pas que je manque ça, parce que ça prenait du temps que souvent que je n'avais pas, puis j'étais assis là, puis je regardais l'horloge, puis j'avais tellement d'affaires à faire, parce que quand on porte un chapeau, puis on a beaucoup de responsabilités, quand on débute un commerce, chaque minute est importante, mais sur l'autre bord, il y avait une certaine valorisation à ça.
C'est
Puis
certain.
aujourd'hui, le monde, ils viennent et sont très, très affairés. Ils rentrent au bureau, ils savent que c'est qu'ils veulent, on s'assoit, ils veulent avoir ça, ils planifient ça, clic, ils sont partis. C'est différent.
Donc, vous
Ouais.
aussi, vous vous êtes adapté à vos clients.
Il
Oui,
fallait ça. Ouais,
oui.
certain.
Mais d'après ce que j'entends, vous avez été très respectueux envers vos clientèles et
Ça faisait
vous
partie de
l'êtes
la
toujours.
formule.
Oui, justement. Hein? Et puis de là, beaucoup de la petite histoire vous a été transmise, j'imagine.
C'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Des expériences, mm-hmm. puis des histoires de toutes sortes d'affaires. Mm-hmm.
Bien. Quel élément de votre carrière dans le commerce des grains vous donne le plus de satisfaction, ou comme on dirait, de fierté?
Bien, c'est le fait d'avoir commencé un commerce de zéro, parce que j'étais impliqué avec un ouvrier qu'on avait embauché à mettre les premiers clous dans les premières fondations pour le béton pour monter l'usine mm-hmm. en 1967. Puis c'est de voir progresser ça, puis qu'est-ce que ça a apporté à la région, parce qu'on est d'un très petit village, il y a très peu d'emplois, puis ça a contribué à garder des jeunes, puis à faire revenir aussi des personnes qui y ont été travailler à l'extérieur, puis qui étaient natifs, mettons, du district, qui sont revenus travailler pour notre usine, puis... Tu sais, quand on regarde, on dit qu'on a des employés de 20, 25, 30 ans, ça veut dire qu'on était peut-être, on dirait, fair avec eux autres.
Oui, c'est spécial.
Mais ça a été bon pour nous, pour la petite communauté, de faire ça, parce que je pense que ça l'a aidé à faire survivre la communauté.
Justement, en retenant les personnes.
En donnant l'emploi, puis oui. De voir aussi... tous nos produits locaux se fait transformer, mettons, mais pas nécessairement transformer, mais nettoyer à des standards, puis rentrer dans des marchés assez exclusifs. Qu'on, mm-hmm. On se demande souvent quand on achète la canne là, sur l'étagère du magasin, d'où vient le produit, mm-hmm. mais il y a beaucoup de nos produits qui vont dans les marques de commerce qu'on voit sur les étagères de magasins.
Est-ce que vous pouvez en nommer quelques-unes?
Bien, si tu achètes ta soupe aux pois habitants, mm-hmm. bien, les pois jaunes, ils viennent de notre usine.
Ah, excellent.
Alors, ça, c'est un exemple. Oui. Mais tu sais, il y a comme, il y a les Bees, il y a Kateri, Heinz, mm-hmm. Morgan Foods, il y a toute une gamme de grosses compagnies, Eddie Smith, toutes mm-hmm. les compagnies qui ont des marques, là, puis des Nestlé, les présences oui. de même, là, bien, on fait affaire avec ces compagnies-là.
C'est une grande présence dans nos allées, chez l'épicerie. Donc, vous avez mentionné aussi que le fait de faire revenir les natifs du village, que ça avait fait tache d'huile et puis que ça avait aidé les autres commerces du village, y compris les écoles.
Oui, jusqu'à un certain point, oui, parce que chaque résident, nécessairement, il contribue à garder d'autres commerces actifs. Mm-hmm. Malheureusement, aujourd'hui, avec le changement des ancrages des entreprises, ça devient de plus en plus difficile pour les petits villages de survivre, parce que les volumes ne sont plus là. Avec les grosses fermes, on n'a plus la présence. Les petites familles aujourd'hui aussi. Un, deux enfants. Alors, les écoles, ce n'est pas comme c'était avant. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'amalgamation encore. Puis c'est pas fini, le changement. Là. Beaucoup de changements encore à l'horizon. Là.
Donc, on n'a pas fini à avoir vu des changements?
Non, certain.
Y a-t-il d'autres questions que vous croyez qu'on aurait dû poser? On continue. Un petit rappel, mon nom c'est Carole Carlson et puis je suis en interview avec M. Rénal Parent, qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs. Et puis à ce temps-ci, j'aimerais vous poser la question, nous décrire le processus de développement des nouvelles variétés. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce processus?
Les nouvelles variétés... En majorité, sortent des universités, des centres de recherche.
Oui.
Alors, on travaille pour, produire de nouvelles variétés qui vont rentrer des critères importants, mettons, pour le côté production pour les fermiers. Puis, parfois aussi, c'est pour rencontrer les critères du marché final, parce qu'il y a certains traits là, qui sont importants pour faire certains produits. Alors, mettons, une fois qu'une nouvelle variété est acceptée, mettons, au plan de développement, au centre de recherche, on fait une multiplication initiale qu'on voit dans les centres de recherche, comme qu'il y a à Glenlee, c'est au sud de,
ah oui?
au sud de Winnipeg. Alors, ensuite, comme producteur de semences, on fait application pour ces nouvelles variétés-là. Puis si on est qualifié, mettons, avec l'association de production des grains de semences, là, on peut avoir le Breeder Seed, qui est la première génération de ces semences-là. Alors, on ensemence ça dans une parcelle assez restreinte, parce que c'est pas une grosse quantité. Là. On parle d'un petit sac là, de 25 livres là, d'une variété. Alors, on sème ça dans une parcelle déterminée. Puis, qu'est-ce qu'on récolte de ça? Normalement, on va être capable d'ensemencer 40 acres l'année d'après. Puis, là, on tomberait avec des semences fondation. Alors, on va dans différentes étapes là, de multiplication qui sera breeder, fondation, enregistré, puis ensuite certifié. Certifié, c'est la plus basse classe là, du processus d'enregistrement des semences avant qu'on tombe comme ce qu'on appelle du grain commun.
Ah,
en d'autres mots, si c'est certifié, on peut mettre le nom d'une variété dessus, mais si on tombe commun, tu ne peux pas vendre la semence commune avec un nom de variété. C'est contre la loi.
Ah.
Alors, je ne peux pas vendre, mettons, du blé Selkirk commercial.
Voilà.
On ne peut pas vendre du blé Selkirk certifié. Moi, je parle d'une vieille variété,
oui,
là, comme exemple.
Oui, comme exemple.
OK.
Donc, ça comprend plusieurs étapes. Et puis, vous, comment est-ce que vous arrivez à faire le choix du grain que vous allez ensemencer ou vendre?
Bien, on regarde, mettons, qu'est-ce qui est adaptable à la région, numéro un, parce que il y a certaines variétés ou certaines sortes de grains qu'on est conscient qu'ils ne seront pas très, très productifs pour nos terrains agricoles en raison, mettons, de la salinité, on parle du pH level,
oui.
Mettons, notre saison. Comment qu'on a de journée, mettons, disponible avant le premier gel. Alors, il y a certaines affaires qu'il faut regarder là, pour adaptabilité quand on fait la sélection de variété. Mais aussi, on regarde le potentiel de rendement, le potentiel, mettons, de servir le moins d'herbicides ou insecticides que possible. Alors, il y a certaines variétés qui sont un peu plus... faciles à produire, puis ils sont moins coûteuses à produire pour
plus
un nombre de raisons.
Oui.
Plus résistantes ou plus adaptables. Alors, ça, c'est des critères, mettons, qui sont évalués par les acheteurs de semences pour déterminer qu'est-ce qu'on veut servir pour l'année qui vient.
Merci. Est-ce que les changements que vous voyez et puis qui semblent être monnaie courante dans votre profession, est-ce qu'ils représentent certains défis pour les entreprises de grains?
Dans le sens de quoi ta question, là?
Est-ce que le fait que les changements sont toujours présents, quelle sorte de défis est-ce que ça représente pour votre commerce?
Oui, il y a une évolution constante qui se fait en agriculture avec les productions, avec le monde qu'on fait affaire avec, soit que ce soit le producteur ou l'acheteur. Il y avait beaucoup de petites compagnies qui étaient acheteurs à un moment donné, puis là, on est rendu avec toutes les grosses compagnies. C'est le même sur le côté production. C'était beaucoup de petites fermes avant. Maintenant, c'est plus des fermes. Il y a beaucoup de fermes de 6 000, puis là, on parle des grosses fermes là, de 10 à 15 000 acres. Alors, définitivement, c'est des opérateurs d'entreprise, c'est plus des fermes familiales.
Non.
Alors, ça pose, pour ces gens-là, c'est une autre classe, une autre classe d'acheteurs pour nous, mettons. Quand ils s'approvisionnent, mettons, de soit les semences ou des herbicides ou des engrais, parce qu'ils regardent acheter le meilleur marché possible. Disponibilité quand ils veulent l'avoir ou qu'ils veulent l'avoir parce qu'ils ont toujours un budget à travailler avec quand on est rendu à ce niveau de production. Alors, il faut comprendre ça. Il y a Mais sur l'autre bord, ça met les affaires un peu plus difficiles à transiger avec ce niveau d'acheteurs-là.
Mm.
Alors, les affaires changent constamment, mais il faut s'adapter à ça, pour essayer de garder les liens. Puis,
être au diapason des choses.
C'est
hein?
ça.
Vous avez mentionné que vous avez entré en partenariat avec une compagnie nommée Alliance. Quels sont les avantages que vous en retirez de ce partenariat?
On dit qu'on est rentré on a en réalité vendu à la compagnie, mais dans la vente, on a gardé des actions dans la compagnie.
Hmm.
Alors, ça nous met semi-partenaire ou un petit partenaire dans le gros portrait, mais ça nous a, apporté des marchés d'extra. Le principe d'opération de gérance de compagnie Alliance, c'est d'acheter des compagnies familiales qui ont été multigénérationnelles,
mm-hmm.
Et aussi de garder, mettons, la gérance telle comme elle était au point d'achat, puis garder les marchés qui sont là, mais ouvrir peut-être l'horizon de nouvelles possibilités pour marchander.
Mm-hmm.
Alors, nous, notre commerce, comme j'ai peut-être mentionné, on faisait affaire à peu près dans 34 pays là, à l'exportation, puis maintenant, avec la nouvelle compagnie, c'est environ 80 pays.
Mm-hmm.
Alors, ça a ouvert des portes jusqu'à un certain point pour marchander des produits. Ça nous donne aussi une stabilité, je pense, dans le marché, parce qu'en faisant partie d'une plus grosse compagnie, on se sent peut-être un peu plus protégé. On
oui.
est un peu moins sujet à compétitionner en étant petit, comme on se considérait petit à comparer à beaucoup de compagnies qui font la mise en marché des produits comme nous.
Bien sûr.
Alors, on se sent peut-être plus compétitif à ce point-là.
Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait étoffer un peu plus sur le rôle, sur l'exemple plutôt de la Turquie qui est venue s'installer dans une usine en Saskatchewan, vous mentionnez?
Oui, mais ils ne sont pas encore installés, mais ils vont... mettons, il y a une compagnie en Turquie qui fait partie du groupe Alliance Grain Trading.
Mm-hmm.
Ils transigent dans toutes les farines, comme le blé de rhum, puis le blé bulgur, puis mm-hmm. les farines Simonella, puis toutes ces affaires-là. Alors, eux, ils font la farine, puis ils font les pastas même.
Oui.
Puis ils font aussi tout l'ensachage des petits paquets là, pour mettre sur les étagères de magasin. Alors, cette compagnie-là a l'expérience pour aider, mettons, au groupe de Alliance Grain Trader à monter une usine en Saskatchewan. Alors, le gouvernement fédéral a annoncé un octroi au groupe de Alliance Grain Trader pour la construction d'une usine de farine en Saskatchewan. Alors, ça va être ciblé pour surtout les blés de rhum.
Mm-hmm.
qui est une grosse production en Saskatchewan. Alors, mm-hmm. on va faire de la farine, puis les pastas, puis aussi la mise en marché, là, jusqu'à un certain point, à travers mm-hmm. des magasins.
Bravo!
Alors,
c'est un atout.
C'est un processus important. Puis c'est un atout aussi pour nous, au Canada, d'avoir des usines qui peuvent faire la transformation des produits, puis la mise en marché, parce que ça crée des nouveaux emplois, puis...
Mm-hmm.
Au lieu de vendre tous nos produits à l'exportation comme produits primaires, on offre des produits finaux.
Ça aide au niveau local aussi. Oui,
c'est ça.
Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'Association canadienne des producteurs de semences?
L'association, mettons à son siège social à Ottawa, puis... un producteur peut faire partie de l'association pour faire, mettons, la certification des récoltes avec le but de faire de la vente comme des semences variétés certifiées.
Mm-hmm. Okay.
Alors, on peut faire, à travers de l'association, on fait application pour faire l'inspection des récoltes au plan qui sont juste avant là, qu'ils viennent en épi, là, mettons, à ce stage-là. Alors, l'association envoie des inspecteurs vérifier la pureté, manque de contamination, etc., de la récolte. Puis ensuite, on est capable de donner un certificat à cette semence-là. Alors, il faut payer un frais basé sur l'ancrage, un frais d'association, le frais pour faire l'inspection. Alors, il y a une série de coûts associés à ça, mais ensuite, une fois qu'on a le certificat, on peut faire la vente du produit suite au nettoyage.
Votre produit, vous les livrez au niveau international? Vous avez des marchés à l'échelle internationale?
Oui, c'est ça. On s'occupe, notre commerce s'occupe de la transportation aussi pour toute cette mise en marché-là. Alors, on s'occupe de la transportation de notre usine à l'usine finale, que soit que ce soit une usine de transformation ou dans sa charge ou les canneries. Alors, on fait des ventes. La transportation se fait soit en piggyback, en conteneur et aussi en wagon, comme quand on fait l'exportation, mettons, au Mexique, bien, ça passe par Laredo, ça s'en va sur la rail, puis ça s'en va directement aux acheteurs. Alors, il y a différentes méthodes de faire des affaires. Quand ça va d'exportation hors du pays, notre port de préférence, c'est Montréal. Alors, les piggybacks se rendent à Montréal, puis ils sont soit transférés dans des conteneurs, s'ils n'ont pas de gens en conteneur, parce que les conteneurs, les lignes ne viennent pas toutes à Winnipeg, ici. Il y a un certain nombre. Le restant, il reste à Montréal. Alors, là, il faut qu'il se fasse un transfert du piggyback au conteneur. Puis,
donc, il faut connaître le réseau.
Destination de ces bateaux. Alors,
c'est une question de logistique, donc.
Oui, c'est des logistiques. Il faut figurer tous les coûts associés du porte-à-porte. On a des spécialistes qui s'occupent de ça.
Tantôt, on avait demandé dans l'interview anglaise quels étaient les avantages, les changements que vous avez connus comme commerce. Et puis, plus précisément, on voulait que vous disiez un mot peut-être du rôle de votre épouse dans les premiers temps.
Aujourd'hui, bien, les commerces, on a tout le personnel, puis c'est pas obligé d'être une affaire familiale, là, c'est plus indépendant commerce. Mais au début, nécessairement, quand on a débuté le commerce, mon épouse s'occupait de faire les livres, s'occupait de taper tous les documents pour faire la transportation quand on allait aux États-Unis, parce qu'il y avait une série de documents qu'il fallait que ça aille taper, puis des permis qu'il fallait appliquer pour. C'est toutes des affaires qui se faisaient au domicile au début, puis ensuite elle est venue travailler au bureau pour un certain nombre d'années, mais à mesure que notre famille grandissait, on a commencé à embaucher des secrétaires pour faire cette sorte d'ouvrage-là. Mais définitivement, c'était un commerce à base familiale, puis il faut que tu te roules les manches, puis tu portes bien des chapeaux.
Oui, tout le monde y apportait son petit grain de sel.
C'est ça.
Bien, on vous remercie tellement pour cette interview, et puis...
C'était mon plaisir.
Les changements que vous nous avez décrits. Merci beaucoup, Renan.
Bienvenue.